pour ceux qui se demandent c'est quoi une chanson, une histoire, eh ben la réponse elle est dans la question, hein, si vous voulez mon avis. Et donc bonjour Irit Azoulay.
Bonjour Didier.
Comment ça va bien?
Toujours ça va bien, quand comment ça va bien.
Je suis ravi de vous avoir en studio, c'est un plaisir trop rare et welcome comme on
Merci,
dit.
Merci, ça fait plaisir à moi aussi.
Et ce matin, on va découvrir, vous allez nous faire découvrir une chanson signée, enfin en tout cas interprétée par Chava Halberstein. C'est l'une des plus grandes voix d'Israël. Je suis ravi de vous l'entendre dire.
Une icône. Depuis les années 60 jusqu'à ce jour, Chava Halberstein chante l'amour, les blessures de la guerre et les espoirs de la paix. Une de ses chansons emblématiques s'intitule Mirdaf. Elle est un petit peu moins connue, j'ai remarqué, en dehors d'Israël, parce que d'une part elle est vieille et elle est moins chantée ici.
Parlez de la chanson, moins.
Je parle de la chanson, non, pas de Chava Halberstein. qui n'est pas trop jeune non plus, mais qui chante encore et qui vient de sortir il n'y a pas longtemps une nouvelle chanson. Et donc, Mirdaf, c'est une chanson qui est sortie en 1969 pour un film documentaire dont le titre était « La guerre d'après la guerre ». Mirdaf, du verbe lirdof, qui signifie en hébreu la courir, poursuivre, la course poursuite, la traque ou la chasse. C'est un documentaire qui retrace la guerre d'usure, qui se déroulait le long de la vallée du Jourdain, dans une région surnommée Eretz Hamirdafim, la terre des courses poursuites.
Mais vous savez quoi, moi je propose qu'on écoute à quoi ça ressemble.
Tout à
מים נוזל ארץ אשר הרריה נחושת אבל עצביה ברזל ארץ אשר מרדפים קורותיה אלפיים דפים ועוד דף עד שנשרף עוד מעט כל חמצן ריאותיה בגלל מרוצת המרדף.
Ah bah franchement, je connaissais pas la chanson, effectivement, non plus, mais par contre, la mélodie me dit bien quelque chose.
Ah tiens.
Alors, dites-moi,
on y arrive.
Ma chère Irit, c'est quoi exactement la terre des courses-poursuites?
Ah ben oui, bonne question. La course-poursuite, hein, en soi, c'était une forme de combat qu'Israël avait développée pendant la guerre d'usure pour neutraliser les cellules terroristes qui traversaient le Jourdain et pénétraient en territoire israélien. Dès qu'une infiltration était détectée, des éclaireurs déclenchaient la course pour intercepter les terroristes. Une fois localisés, les forces israéliennes les encerclaient et leur ordonnaient de se rendre. En cas de refus, les combats éclataient. N'oublions pas qu'on était en 1968-69 et qu'on ne disposait pas des radars et des drones et de la technologie qu'on a aujourd'hui. Donc les courses poursuites se déroulaient dans des conditions très difficiles. Et chaque jour, les journaux affichaient les photos de nos soldats tombés à la bataille. C'était un fardeau émotionnel et psychologique pour tout Israël.
Je peux vous dire que, comme on dit toujours, l'histoire se répète malheureusement.
Ouais, exact.
Et certainement en ce matin du 8 juillet.
Mais voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson depuis déjà un moment.
Ouais, c'est vrai. Et c'est, comme vous le disiez, c'est une charge émotionnelle et psychologique pour le peuple juif en général.
Voilà, c'est usant.
Mais je peux vous dire, et je parle sous le contrôle de Lise Benkemoun et de toute l'équipe ici, c'est pas évident tous les matins, parfois, d'annoncer de mauvaises nouvelles, notamment le décès de soldats, c'était le cas aujourd'hui, avec 5 soldats qui sont tombés
hier. Entendu.
Et voilà, mais après, comme on dit, the show must go on, il faut continuer de garder le sourire, et c'est pas toujours évident.
Voilà, c'est ça, c'est usant, c'est ça la guerre d'usure, et ça dure depuis toujours en fait.
Bah justement, et cette guerre d'usure, elle est en fait, pour la situer dans le temps, vous parlez de l'année 68-69, c'est juste après la guerre des 6 jours en fait.
Voilà.
Et donc ça a duré quasiment 3 ans, la guerre a duré 6 jours, voilà, mais la guerre d'usure a duré 3 ans.
Tout de suite après, en fait, la guerre des 6 jours, elle a commencé en mai 1967, quand l'Égypte de Nasser exige le retrait des forces de l'ONU, dont la mission était de maintenir la paix, n'est-ce pas?
Oui, pareil.
Et aussi incroyable que cela puisse paraître, l'ONU va obtempérer à la demande égyptienne immédiatement et elle quitte la région sans même se redéployer du côté israélien dans le Negev, comme demandé par Levi Eshkol, le premier ministre de l'époque en Israël.
Vous trouvez ça incroyable, vous?
C'est incroyable. non, mais c'est pas nouveau. Dans la foulée, c'est pour ça que je dis que cette chanson, elle est d'actualité incroyable. Dans la foulée, à l'époque, l'Égypte ferme le détroit de Tiran et déploie ses troupes près de la frontière israélienne. Israël, qui perçoit une menace imminente, comme par hasard, lance une attaque préventive le 5 juin 1967, détruisant au sol l'aviation égyptienne. L'Égypte appelle alors le ralliement de ses alliés et le jour même, la Syrie va bombarder les villages israéliens proches du Golan, la Jordanie va bombarder Jérusalem Est et d'autres, Ouest, pardon, et d'autres zones. Et au bout de 6 jours de combat, Israël va repousser ses agresseurs sur les 3 fronts et conquérir la bande de Gaza et le Sinaï de l'Égypte, puis la Cisjordanie de Jérusalem Est et Jérusalem Est de la Jordanie. Et ainsi que le plateau du Golan de la Syrie.
Et si je me souviens bien, mais on est un petit peu hors cadre, je pense qu'à la suite de cela, Israël a toujours dit et a même essayé de communiquer à ses voisins, notamment la Jordanie, l'Égypte et la Syrie, qu'ils étaient prêts à rendre les territoires conquis en échange de la paix. Et mais ça a été refusé par les pays arabes.
Non, c'est pour ça qu'on n'a jamais de paix.
C'est vrai. Et donc, sous la pression de l'ONU, la guerre des 6 jours va s'arrêter officiellement, forcément, au bout de 6 jours, hein, sinon on n'aurait pas ce nom-là, parce qu'on a vécu la guerre des 12 jours.
Voilà, c'est exactement ce qui m'a fait rappeler.
Et cette guerre sera immédiatement, on l'a dit précédemment, suivie de la guerre d'usure.
Exact. Le président égyptien Gamal Abdel Nasser adopte alors une stratégie d'usure à long terme, parce qu'il n'avait pas les moyens, en fait, de réattaquer d'une manière ouverte une nouvelle guerre. Et donc, il y va pour viser à affaiblir Israël progressivement. D'une part, il harcèle les forces israéliennes stationnées le long du canal de Suez, et d'autre part, il soutient plusieurs organisations palestiniennes armées chargées d'épuiser Israël par des infiltrations répétées depuis la Jordanie. Il s'agit des mêmes combattants palestiniens appelés les Fedayin qui étaient déjà actifs dès la création de l'État d'Israël en 1948. Ils menaient alors des incursions à partir de la bande de Gaza qui était à l'époque sous contrôle égyptien. Et après la guerre des 6 jours, l'Égypte, désormais privée du Sinaï et de la bande de Gaza, va soutenir l'implantation des Fedayin en Jordanie, le long de la vallée du Jourdain.
Il paraît que l'expression Fedayin, j'étais étonné de l'apprendre, ça signifie littéralement combattant prêt à se sacrifier.
Ah oui, je constate, Didier, que vous connaissez mieux l'arabe que l'hébreu.
C'est pas loin.
Et à cause de ces Fedayin, le roi Hussein de Jordanie se sentait menacé, car l'OLP et d'autres groupe terroriste utilisait son pays comme base arrière pour attaquer Israël.
Et donc, il y a eu Septembre Noir.
Ah, on y arrive.
Et c'est le roi Hussein.
On y arrive. Créant une sorte d'État dans l'État et défiant le roi Hussein, notamment en détournant des avions occidentaux vers le désert jordanien, la montée en puissance des groupes palestiniens armés représentait une menace directe à l'autorité et à la stabilité du régime hachémite, ce qui pousse le roi Hussein à réagir d'une manière violente, comme vous venez de le dire, pour préserver son pouvoir. Donc, c'était le 16 septembre 1970. Hussein déclare la loi martiale et lance une offensive militaire contre les Fedayin. L'armée jordanienne bombarde les camps palestiniens et élimine les poches de résistance, faisant des milliers de morts parmi les civils palestiniens.
Et LFI n'a rien dit.
Oh mais non, ils étaient... mais non, on le sait. Du D'accord. moment que c'est pas les juifs qui tuent, quand ils s'entretuent entre eux, c'est bon.
Ouais, il paraît.
Et voilà, et comme vous le venez de le dire, Didier, c'est ce que les Palestiniens appellent aujourd'hui le Septembre Noir. Et en 1971, l'OLP va être expulsée de Jordanie. Et donc, où est-ce qu'elle va aller? Ben, elle va se replier au Liban. Il faut rester toujours proche d'Israël, n'est-ce pas? Et c'est là qu'elle établit son nouveau quartier général.
Donc, pour revenir plus sérieusement, on peut dire que le Septembre Noir marque la fin de ses courses-poursuites, mais en même temps, le début des guerres du Liban.
Eh oui, bien résumé. Malheureusement, nous passons toujours d'une guerre à l'autre.
Bah, j'avoue que ça rappelle, on a déjà dit, la situation actuelle. Donald Trump qui a décidé d'arrêter d'arrêter la guerre des 12 jours contre l'Iran, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est plus en guerre, forcément.
Rien d'étonnant donc que cette chanson Mirdaf ne cesse de tourner dans ma tête, tellement elle est d'actualité. On finit par comprendre que nos ennemis ne cesseront jamais de nous harceler, car leur objectif n'est pas d'offrir une vie meilleure à leur peuple, mais de pourrir la vie du peuple juif. C'est pourquoi Israël vit dans un état de guerre permanent, même durant les périodes dites paisibles. Nous sommes obligés de vivre en alerte constante, ce qui nous rend solides d'un côté comme un roc, mais d'un autre côté, il arrive inévitablement que l'on baisse la garde, forcément. Et ce sont précisément ces moments-là que nos ennemis ont su exploiter.
Et alors, on va pas se voiler la face. Vous m'avez dit ce dont vous vouliez parler. J'ai été rencardé, comme on dit dans le jargon. Et donc, avant d'entrer dans l'analyse du texte que vous allez nous proposer dans un instant, une question me paraît évidente. Pour quelle raison Yaron London, donc l'auteur de cette chanson, dit aujourd'hui qu'il regrette de l'avoir écrite? Alors, évidemment, on peut se placer sous l'ordre de l'éthique, on va dire, et morale. On aimerait bien. C'est comme nous, tous les jours, on écoute. À Baïta, et on n'a qu'une seule envie, c'est de ne plus l'écouter, dans le sens où ça voudrait dire que les otages soient rentrés, bien évidemment.
C'est une option.
C'est dans cet esprit-là qu'il
regrette. Ça pourrait, mais ce n'est pas tout à fait ça. D'accord. Un petit peu différent. Il est spécial, celui-là. Le problème était déjà beaucoup plus fort. C'est pas juste qu'il a regretté. Ce qui était vraiment frappant et même choquant, c'était le dégoût que Yaron London a éprouvé à l'écoute de sa propre œuvre. Il prétend avoir un dégoût et ne plus supporter son texte. 40 ans, mais c'est venu quand même 40 années après avoir écrit ce poème. Et il faut dire qu'il a déjà 85 ans. London déclare regretter ce qu'il considère désormais comme un texte. Et c'est là que ça vient. Il dit lui-même que ce texte est fasciste et il dégage une odeur nauséabonde des mythes du sang et du sol. Vous voyez de quoi il parle, Didier ?
Non, pas du tout.
Ce mythe du sang et du sol qui nous renvoie à l'idéologie nationaliste allemande, le tristement célèbre « Blut und Boden ». Vous pensez bien que cette déclaration a suscité de vives réactions en Israël. Personne ne comprenait ce qu'il pouvait y avoir de fasciste dans ce chant poignant qui n'a rien d'une ode à la guerre. Bien au contraire, cette chanson ne glorifie pas le sang versé pour la terre. Elle se contente d'énoncer avec amertume et beaucoup de souffrance et de douleur que ce sang y coule comme de l'eau dans les rivières. Elle exprime un profond désir de paix, mais aussi une lucidité douloureuse. Celui qui aspire à la paix doit être prêt à en payer le prix, y compris le prix de la guerre. Mais pour mieux saisir la portée des propos de Yaron London, il faut rappeler qu'il est journaliste, animateur, acteur et auteur, réputé pour son style véhément, souvent sarcastique et provocateur. Dans ce contexte, lorsqu'il qualifie sa propre chanson de fasciste, il faut y voir l'expression d'un profond malaise. Ce qu'il déplore, c'est que, pour une partie de la société israélienne et certains responsables politiques, la course-poursuite soit devenue une fin en soi, un objectif érigé en valeur suprême, sacralisé au point d'en faire oublier le but initial.
Ah bah dites-moi, et autrement dit, Yaron London n'est plus du tout prêt à payer le prix de la guerre qui devient beaucoup trop cher selon lui.
Ben oui, il est déjà vieux et il est gagné par la lassitude, ce qui est assez compréhensible d'un côté, mais d'un autre côté c'est quand même très ironique parce que il dit qu'il n'aime plus les paroles de sa propre chanson, mais il adore la mélodie qui avait été, elle, composée par Nahum Heyman. C'est pour cette raison qu'il dit qu'aujourd'hui il préfère écouter la version française de sa chanson, devenue une chanson d'amour et dépourvue de toute connotation nationaliste.
Ah ben, il existe donc une version française.
Ben oui, Didier, il existe une version française et vous ne devinerez pas qui en est l'interprète et l'auteur.
Dites-moi qui.
Ah, Marie Laforêt.
Ah, j'adore.
Eh oui, Marie Laforêt, dans les années 60, début 70, Nahum Heyman, le compositeur donc de cette mélodie, vivait en Europe et travaillait avec divers artistes francophones. Et pendant cette période, il rencontre Marie Laforêt, qui, elle, souhaitait élargir son répertoire avec des morceaux empruntés à diverses cultures. Et elle tombe sous le charme de Mirdaf, qui a été chanté par Chava Halberstein. Et sans comprendre un mot du texte hébraïque, Marie Laforêt va écrire en français un poème romantique qu'elle intitule « Mes bouquets d'asphodèles » et qu'elle signera sous le pseudonyme de Françoise Teille.
Ah bon, écoutez à quoi ça ressemble.
Je ne sais plus parler aux hirondelles.
Ça y est, je sais d'où ça vient.
Je ne sais plus rien de l'odeur des sous-bois. Je ne vais plus cueillir les asphodèles. Mon ciel et ma terre, c'est toi. Je ne sais plus les frissons des ablettes. Dans l'eau des étangs, il y a des tourbillons qui me tournent à la tête, qui n'arrêtent pas de me parler de toi.
Ah bah merci ma chère Hérite, ça me rajeunit d'à peu près 50 ans là,
c'est beau,
cool.
Hein.
Ah oui, c'est mieux, mais maintenant je sais, c'est dans, c'est, je vous ai dit que ça me rappelait quelque chose.
J'en étais sûre que ça venait de là, mais j'attendais quand même.
Ah ouais, franchement.
Pour que vous le découvriez.
Non, merci, c'est
en
sympa.
Même temps que nos auditeurs.
C'est vraiment un bonheur. Bon, maintenant, on aimerait quand même mieux comprendre, parce que vous avez parlé de comme dirait l'autre, c'est l'auteur de cette chanson qui a parlé de paroles fascistes, etc. Alors, on aimerait mieux comprendre la portée du texte original en hébreu maintenant, puisque vous l'avez mis dans la langue de Molière. Je conseille aux auditeurs de fermer les yeux et de s'enfoncer dans le fauteuil pour écouter ce merveilleux poème, sauf qui conduisent bien sûr.
Ceux qui conduisent gardent les yeux ouverts. Mais écoutez-moi ça, c'est vraiment un très beau poème. Donc, la course poursuite. Une terre prospère où le miel coule dans ses veines, mais dans ses rivières, le sang jaillit comme de l'eau. Dans ses montagnes, le cuivre est caché, mais les nerfs de cette terre sont en acier. Une terre dont l'histoire est faite de persécutions, 2000 feuillets et encore un feuillet de poursuite, jusqu'à ce que tout l'oxygène de ses poumons soit consumé par la traque et la fuite. Une terre pourchassée par ses prédateurs, mais qui, à son tour, chasse ses chasseurs. Elle va les rattraper, mais eux ne l'empoigneront jamais. Une terre qui voit sa propre vie vaciller, suspendue comme une feuille ballottée. Elle tremble, mais en feignant la sérénité, elle attendra la fin de la course acharnée. La fin de la traque se cache dans le ravin, et dans un refuge, elle se cache et attend la délivrance qui viendra, c'est certain, tout comme le soleil se lève à l'orient. En ce jour, les mères ne pleureront plus, ni les pères, leurs enfants perdus. Oui, la fin viendra, et d'ici là, nos jambes ne se lasseront pas de poursuivre les pas de l'espérance.
Ah, c'est vrai que c'est joli. Par contre, j'ai noté que je pense que c'est au début de la chanson, la terre où coule le lait et le miel. Est-ce qu'il y a encore d'autres références bibliques
Mais bien sûr, Yaron London a fait beaucoup de références bibliques. Il nous renvoie surtout à quelques versets du Deutéronome, de la paracha Ekev. Dans ce chapitre, Dieu promet au peuple d'Israël une terre bonne et fertile, riche en eau, en fruits, en céréales et en ressources naturelles. Mais Moïse met en garde les Israélites. Une fois rassasiés et établis dans le confort, ils devront veiller à ne pas oublier Dieu et ses commandements, surtout les commandements. Les Bnei Israël ne devront jamais croire que c'est leur propre force qui est à l'origine de leur succès. Ils devront se rappeler que c'est Dieu qui leur a donné cette force. Moïse avertit son peuple. Si les Israélites oublient leur Dieu, Hachem, et se tournent vers d'autres divinités, ils périront comme les nations qui les ont précédées. En d'autres termes, si nous observons les lois de la Torah, Dieu nous aidera, nous donnera notre terre et fera descendre la pluie pour la rendre fertile et ruisselante de lait et de miel. Mais si nous nous détournons du droit chemin, nous disparaîtrons rapidement de la surface de notre Terre.
Eh bien, merci Rit pour toutes ces explications et cette mise en lumière de cette chanson Mardaf, je rappelle
Mirdaf.
Le titre. Mirdaf, pardon, pour moi.
Et, la course poursuit.
Et comme d'habitude, on va se quitter en écoutant
la version hébraïque.
La version hébraïque dans son intégralité, qui fait 2 minutes 27 aussi. Hein, donc, c'est assez
court. Elle n'est pas très longue.
Merci infiniment, Rit.
Merci Didier, à la prochaine.
Le plus vite possible.
ארץ טובה שהדבש בעורקיה אך דם בנחליה כמים נוזל ארץ אשר הרריה נחושת אבל עצביה ברזל ארץ אשר מרדפים קורותיה אלפיים דפים ועוד דף עד שנשרף עוד מעט כל חמצן ריאותיה בגלל מרוצת המרדף ארץ אשר ירדפו האויביה והיא את אויביה תרדוף במרדף היא את אויביה תשיג אך אויביה הם לא ילכדו הבקר זו הרואה את חייה מנגד תלויים כעליה נידף תהיה ריאה אבל כמו לא הייתה כלל מודאגת תמתין עד לתום המרדף תום המרדף מסתתר בנקי מצפין את פניו במחבור, במחבור אך לסופו הוא יבוא כמו השמש אשר ממזרח היא תבוא אז לא יותר אמהות תקוננה ולא על בניהם האבות כן הוא יבוא ורגלינו עד אז לא תלענה לרדוף בעקבי התקוות
Mirdaf, c'était une chanson, une histoire signée Rit Azoulay qu'on remercie et comme je le disais qu'on espère retrouver très très vite sur cette antenne.